bruit. Et faites attention, je vous l'ai déjà répété 300 millions de fois.
Dans cette prise de notes de High Fantasy, on ne pouvait pas ne pas vous parler du père du genre. J'ai nommé John Ronald Reuel Tolkien. Avant 2001, personne, je dis bien personne, n'avait entendu parler du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit.
Quand même.
Tolkien avant les films ?
Et je les ai lus avant les films. Avant même qu'on ne parle des films.
Moi, j'étais trop jeune.
J'avais 10 ans.
Et moi, je passe pour la vieille. Certes. Ce que je voulais dire, c'est que grâce à Peter Jackson, le monde entier, et maintenant c'est vraiment le monde entier, connaît cet univers. Mais qui l'a lu ? Après avoir vu le film. Non mais vous deux, vous comptez pas. Si vous aviez pas lu Tolkien, j'aurais jamais accepté qu'on fasse cette émission ensemble. Enfin bref, toujours est-il que si ce n'est pas fait, je vous recommande de lire les romans de Tolkien. Car si le premier roman de Tolkien sort en 1937, qui s'appelle Hobbit, a pour but de divertir les enfants, d'ailleurs l'histoire à la base était destinée à ses propres enfants, la richesse de ces bouquins dépasse de loin l'image. Il faut savoir que Tolkien est linguiste, c'est-à-dire qu'il étudie les langues, a priori surtout germaniques le concernant, et que la première force des romans de Tolkien, c'est l'immersion par la langue. Elfique, naine ou même orque, la langue aide à dresser des civilisations avec leurs baragouins et leur culture. Ça crée aussi l'image définitive que l'on a de ces populations. Car Tolkien a initié le genre de la fantasy en se basant sur des contes existants et sur des légendes pour en faire des personnages que l'on arrive maintenant à imaginer simplement en fermant les yeux. Les elfes ont des longues oreilles et sont archers. Le côté blond, c'est juste un ajout du film. Les nains sont petits, barbus et bagarreurs. Et les orques sont difformes et limités. Ah oui, j'allais oublier les hobbits, ces semi-hommes aux pieds poilus. Car tout part d'un hobbit, Bilbo Baggins, qui habite à Cul-de-sac, un village de la comté. La comté, c'est le pays des hobbits dans la Terre du Milieu. Il aime sa vie paisible, il aime la bonne chair. Il a absolument aucune envie de quitter son chez-lui. Jusqu'au jour où il rencontre un magicien nommé Gandalf et une troupe de 13 nains qui le mènent sur la piste d'un anneau. Un anneau d'invisibilité. Oui, c'est l'histoire du hobbit. Le hobbit qui transmettra son anneau à la génération suivante qui partira vers le Mordor pour brûler l'anneau. Bref, vous avez vu les films. Mais les livres sont plus que ça. Parce que le livre du Hobbit, ce n'est pas trois volets de film, c'est juste 300 pages. C'est un livre pour enfants à la base. C'est juste une histoire de dragons, de nains, d'anneaux, de chants. C'est une histoire simple, une histoire belle, qu'il vaut la peine de lire.
Du temps tourne. Les airs se succèdent, laissant des souvenirs qui deviennent légendes. La légende se fond en mythe, et même le mythe, est depuis longtemps oublié quand revient l'ère qui lui a donné naissance. Au cours d'une ère, que d'aucuns ont appelée la troisième, une ère encore à venir, une ère passée depuis longtemps, un vent s'éleva dans les montagnes de la brume. Ce vent n'était pas le commencement. Il n'y a ni commencement ni fin dans les révolutions de la roue du temps, mais c'était un commencement. La roue du temps de Robert Jordan. Dans la roue du temps, le bien et le mal s'affrontent. Il y a bien longtemps, Lewis Terrin Telamon, appelé le dragon, a combattu le ténébreux. Et il a gagné. Il l'a alors enfermé dans une prison au nord du continent dans la grande dévastation. Le ténébreux, c'est la source du mal. Avant d'être vaincu par le dragon, il a souillé la source de magie pour tous les mâles, pour rendre fous tous les magiciens qui pourraient potentiellement se dresser contre lui. Car dans ce monde, les magiciens n'utilisent pas leur propre puissance pour exercer leur art, mais doivent canaliser une source de magie. Or, depuis la malédiction lancée par le ténébreux et malgré son emprisonnement, tout homme utilisant la magie devient fou petit à petit. Aujourd'hui, les sceaux de la prison du ténébreux sont en train de se briser. On attend l'arrivée du dragon réincarné, un magicien suffisamment puissant pour mener un nouveau combat contre le ténébreux. Rand, Matt, Perrin, Egwen et Ninive sont cinq jeunes gens qui voient leur destin prendre une nouvelle tournure lors de l'arrivée d'une Aes Sedai, une magicienne. Parce qu'elle a senti un pouvoir en eux, la magicienne les invite à partir avec elle pour une aventure à travers le monde. Ils découvriront leur pouvoir et tisseront leur propre destinée. Car le monde est une tapisserie, filée par la roue du temps. Et chaque destin est un fil qui va s'entremêler avec d'autres. Alors la roue du temps est la fresque fantasy des 20 dernières années. Créée par Robert Jordan, qui commence cette série de romans en 1990, elle a été terminée en 2007 par un certain Brandon Sanderson.
Oui, oui, oui.
Dont on a une grande fan ici et oui. Dont on a parlé plus tôt. La série a été achevée en 2013, en anglais néanmoins. Si vous souhaitez lire cette saga, faites-le. Mais vous devrez vous montrer patient, car la fin n'a pas encore été publiée en français. Bragelonne, qui s'occupe d'une seconde réédition, a décidé de tout retraduire depuis le début et pour l'instant, 16 volumes ont été publiés sur 26. Il faudra donc vous montrer patient. Mais La roue du temps vaut la peine d'être lue. Avec elle, on a tous les éléments d'un roman d'high fantasy, des jeunes héros, des histoires d'amour, un méchant et un monde qui baigne dans la magie. Et surtout, un héros dont on attend le retour et qui permettra au bien de triompher. Enfin, si la roue tourne comme on l'espère. Petit conseil néanmoins, accrochez-vous, parce que la roue du temps est imprévisible et plus personne n'a son destin entre ses propres mains.
Reconnaissons-le, en high fantasy, beaucoup de titres de sagas se ressemblent. La roue du temps, le trône de fer, l'épée de vérité. On a l'impression que ce sont les mêmes titres, les mêmes thèmes, traités avec plus ou moins de talent, on l'a dit. Tad Williams possède ce talent. Le talent de nous emporter par-delà les mers, rencontrer Simon, un jeune orphelin marmiton dans un château qui aide un prince à s'enfuir. Il devient alors hors la loi, il est jeune, il a 14 ans, et il est perdu aux confins d'une forêt. Pour rejoindre ce prince qu'il a aidé à libérer, il doit la traverser. C'est alors qu'arrive Binbini Kegabenik. Heureusement, il est là pour l'aider. Oui, je rassure le lecteur qui s'inquiète de prononcer, de lire Binbini Kegabenik à chaque fois que le personnage apparaît, sachant que c'est un des personnages principaux, on apprend assez vite qu'en fait, il faut l'appeler Binabik. C'est plus facile. C'est un troll dit Kanouk, le pays de montagnes au nord, et Simon découvrira, notamment grâce à Binabik, la prophétie des épées de pouvoir. Bien entendu, il devra sauver le monde. Oui, c'est caricatural. Mais en même temps, comment est-ce que vous voulez résumer 3 tomes de plus de 1000 pages en quelques phrases? Parce que ce qui fait la force de la fantaisie épique, c'est l'immersion. La découverte du monde, la richesse des personnages. Alors si, comme nous, vous avez envie de vous laisser bercer par la magie, on vous recommande Le Hobbit de Tolkien, La Roue du Temps de Robert Jordan et l'Arcane des épées de Tad Williams. Vous verrez, vous ne serez pas déçus du voyage. Thank you.